en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est avec les mythes qu'il a fait son trou. Ces textes anciens et fondateurs de nos religions, ces légendes venues de l'Antiquité ou de la nuit des temps, qu'il transforme en autant de rébus ludiques et tourmentés, face auxquels il est absolument impossible de rester indifférent. Son œuvre, son univers unique, haut en couleurs et en symboles, le visiteur peut les découvrir ou les redécouvrir à travers pas moins de 3 expositions en ce moment à Paris. Une à la Galerie Templon autour du Talmud, une autour du mythe de Diane et Actéon au musée de la chasse et de la nature, une autour de Rabelais et de Dante, cette fois dans la cour vitrée du Palais des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, il en est diplômé, il est élu également depuis décembre dernier à l'Académie des Beaux-Arts. Gérard Garouste est avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Gérard Garouste.
Bonjour.
3 expositions ou une seule exposition éclatée en 3 sites?
On pourrait dire, en effet, on pourrait prendre ça comme une seule exposition sur 3 sites. D'ailleurs, le thème de ces 3 expositions, c'est Zeugma.
Alors, Zeugma.
Zeugma en grec, ça veut dire le pont. C'était aussi une ville grecque, mais c'est le pont au sens très large du terme, c'est-à-dire entre deux idées, l'entre-deux, en fait, est un Zeugma. Dans ces 3 expositions, a priori, des choses très très différentes. L'univers du Talmud par rapport à la mythologie grecque,
il n'y a pas de correspondance évidente, et pourtant,
il y a justement du lien, de même qu'avec la Divine Comédie ou Rabelais, il y a aussi du lien.
Alors Zeugma, c'est aussi une figure de style, littéraire, une figure de style syntaxique. Vous pouvez nous donner un petit exemple? Par exemple, quand on dit il pose son chapeau et une question.
Voilà, exactement.
Voilà. A priori, ça n'a rien à voir, on a l'impression qu'il manque quelque chose, et puis il y a un pont, justement, une liaison, qui donne un effet un peu comique.
Comique. Et souvent, les histoires drôles sont zeugmatiques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est parce que ce qui fait rire, c'est justement l'absence de cohérence et ça prend du sens en même temps.
Une figure de style, alors est-ce que vous concevez l'art, Gérard Garouste, est-ce que vous concevez la peinture comme un exercice de style?
Écoutez, pour moi, la peinture, c'est comme pour un écrivain, il a son style, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ses idées, et son style, c'est la moindre des choses. Souhaitons qu'il ait un bon style.
Oui. C'est
mieux. Et moi, ma peinture, j'espère qu'elle est le mieux possible, mais c'est pas ça le plus important dans ma vie d'artiste. Ce qui est le plus important, c'est les questions qu'elle soulève. Et voilà, je me mets. D'ailleurs, au niveau du métier, vous remarquerez que j'invente rien. C'est une peinture à l'huile extrêmement classique au niveau du procédé. Il y a pas de modernité, il y a pas d'effet. Si j'étais musicien, vous voyez, je prendrais un piano ou un violon pour inventer de la musique. Mais j'ai pas envie de prendre un synthétiseur et d'être dans des horizons tout à fait nouveaux.
Ouais, il y a pas de modernité, dites-vous, mais est-ce qu'il y a peut-être une éternité, alors, du coup.
La peinture est intemporelle, c'est ça. Elle est définitivement démodée ou toujours à la mode. Elle existe depuis la nuit des temps, donc elle est elle-même un propre mythe. Et ça, on le ressent bien en lisant Roland Barthes, qui fait que c'est très rassurant à ce niveau-là de faire de la peinture, parce que tout d'un coup, on est dans un contexte hors mode. Ça, c'est très important.
Est-ce à dire, Gérard Garouste, que le spectateur, le public, celui ou celle qui va découvrir chacune de vos œuvres à travers ces différentes expositions, est obligé d'une certaine façon de se sentir en territoire familier?
Oui, en effet, il n'y a pas, au niveau du support, il y a rien de, je ne suis pas iconoclaste, on n'est plus au début du XXe siècle, on n'est plus à l'époque de personnes que j'admire énormément comme Picasso, Matisse, Duchamp, qui ont été des événements extraordinaires, mais qui, moi, Marcel Duchamp m'a donné un coup de pied dans l'estomac. Après, en comprenant l'œuvre de Duchamp, je me suis dit que la peinture, c'était fini. Donc il a fallu que je réfléchisse un petit peu à quel pouvait être l'avenir après Duchamp, et c'est un peu comme au jeu de l'oie, c'est-à-dire retour à la case départ, Qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Reprenons les choses le plus simplement possible.
C'est intéressant que vous parliez de jeu de loi, Gérard Garousse, parce qu'il y a des dés, hein, d'ailleurs, hein, sur beaucoup de vos toiles. Est-ce que vous concevez la peinture comme un jeu?
Oui, c'est un jeu avec ses règles.
Mais qui les fixe, les règles?
D'abord, c'est notre culture qui les... ces peintures s'adressent vraiment à... C'est une peinture très occidentale. J'aime beaucoup l'art africain ou l'art indien, des choses comme ça. Mais c'est une autre culture. Je ne suis pas indien, par exemple. Il y a un goût. Mais si on connaît le langage, si je parlais indien, je serais beaucoup plus réceptif. Là, ma peinture... c'est le même public que celui qui peut comprendre à la fois Rembrandt et Picasso et qui est un milieu très 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 européen occidental.
Oui. Et cet européen là, donc ce spectateur qui regarde hein, effectivement vos œuvres, il a la possibilité, pour reprendre ce qu'on disait au tout début de cet entretien, de construire lui-même le zogma, de construire lui-même son pont ou ses propres ponts et donc de définir son propre chemin à travers vos œuvres.
C'est très important ce que vous dites parce que il y a l'idée de ne pas choquer au niveau de la forme. Je ne lancerai jamais du riz sur mes tableaux, crever la toile, ça a été fait par Hartung, la brûler, ça a été fait par Yves Klein. Ce côté moderne ne m'intéresse pas du tout. Donc il faut au contraire que le public reçoive cette peinture comme il peut recevoir un roman écrit, et là après il faut que cette peinture pose question. Ce qui compte, c'est qu'il faut... Ma peinture est au service d'un questionnement.
Franz Liszt et la Divine Comédie de Dante. Dante qui est avec Rabelais, l'une des sources qui ont inspiré Zogma, le grand œuvre drôlatique à cette série d'installations monumentales. C'est vraiment le mot qu'on peut admirer dans un espace assez exceptionnel. Gérard Garousse, la cour vitrée du Palais des Études des Beaux-Arts de Paris. Alors Dante, Rabelais, on pense peut-être plus imagination et imaginaire que questionnement, non?
C'est-à-dire que quand on voit les tableaux, quand on voit cette installation, en effet, ce sont des toiles le traitement est très étrange parce que ce sont comme des fausses tapisseries.
Oui.
C'est plus proche de la teinture que de la peinture, et les figures qui sont représentées. Qui sont monumentales, encore une fois, c'est des toiles de 16 mètres de long sur 9 mètres, c'est très très grand, évoquent en fait des lettrines du Moyen-Âge, des toutes petites choses qui sont, par exemple, dans la collection Wittgenstein au musée Marmottan, et qui sont minuscules. Et on se dit que les moines qui ont fait ça ont pu rêver d'inventions comme ça. Et là, tout d'un coup, cet univers des lettrines, on le retrouve dans ces grandes toiles du Palais des Beaux-Arts. Un petit détail en
Allez-y.
Passant,
oui.
Au Beaux-Arts, vous savez, c'était émouvant pour moi d'y travailler, parce que j'ai été en effet l'élève, mais je n'ai jamais eu le diplôme.
Ah, voilà, contrairement à ce que je disais au début. Mais, oui, ça aurait été ennuyeux de réussir le diplôme.
Écoutez, ça aurait été une perte de temps totale,
voilà.
Car le diplôme ne sert strictement à rien.
Bon. En tout cas, vous étiez donc justement étudiant aux Beaux-Arts il y a 50 ans, hein, en 68, quand éclatèrent ce qu'on appelle les événements. Comment est-ce que vous avez vécu justement ce printemps 68 ?
Écoutez, très rapidement, j'ai été très séduit par la puissance de toute l'équipe qui tournait autour de Cohn-Bendit. Je trouvais que c'était vraiment là une vraie prise de conscience politique que moi je n'avais pas. Moi j'avais pas j'étais pas encore mûr comme ça pour avoir des convictions si forte, si proche des syndicats, tout ça, je trouve ça assez extraordinaire. Au Beaux-Arts, c'était un peu folklorique, un peu romantique, l'idée c'était de ressembler à Delacroix, ou je sais pas, sur les barricades de Paris, enfin il y avait, oui, un côté un peu romantique, et puis le côté je suis pas d'accord camarade, je trouvais ça un peu agaçant, je suis pas d'accord, oui, camarade, on entendait partout.
Donc vous avez vécu mai 68 de loin.
De loin. Par contre, au Beaux-Arts, il y avait cette chose assez formidable, c'était l'atelier Brianchon qui éditait toutes ces affiches qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Ça fait une belle collection d'affiches. Et là, je regrette de ne pas avoir participé à cette aventure de faire des affiches qui étaient des lithos sortis directement des ateliers. Là, tout d'un coup, les Beaux-Arts avaient du sens.
Et donc, vous y revenez à travers cette exposition Zogma, le grand œuvre drôlatique. Comment est-ce que vous avez appréhendé l'espace de cette galerie vitrée, de la cour vitrée des études ?
Cette technique des indiennes, j'appelle ça des indiennes, c'est-à-dire des grandes toiles peintes comme ça, qui sont faites pour habiller, ce ne sont pas des tableaux tendus, des toiles tendues sur châssis, qui sont faits pour être accrochés dans un musée ou au-dessus d'une cheminée dans un appartement. Ces toiles sont faites un peu pour habiller un mur, comme l'est une tapisserie, c'est comme un vêtement. J'avais vu ces premières indiennes au musée de Reims, où il y avait l'idée d'une exposition, on me disait choisissez une des pièces de notre musée pour faire une œuvre en fonction de cette pièce du collection. Et alors il y avait des tableaux, il y avait, je crois, un petit Cranach qui était superbe, et moi j'avais tout de suite été très étonné par ces grandes toiles qui venaient du Moyen-Âge, et personne ne savait ce que c'était. On appelait ça des indiennes, mais c'est un terme assez fou.
Oui, parce qu'à la base, c'était des toiles importées, des comptoirs...
Oui, normalement, ça vient de Bordeaux, oui, en Inde, et là, on n'est, oui, pas du tout dans ce contexte-là. Non, on est là... c'est, encore une fois, des fausses tapisseries, c'est-à-dire de la peinture à l'eau sur toile, mais très grand format, et c'est plutôt comme des toiles, comme des décors pour décorer une rue à l'arrivée d'un prince, ça se passe au Moyen-Âge, ou alors peut-être des décors de mystère devant une cathédrale, ou chauffer les murs d'un hospice. Mais ça, ce qui m'a plu, c'est que tout d'un coup, c'était des fresques sur toile, et selon le lieu, on pouvait habiller... Alors, quand j'ai fait ces toiles, la plupart de ces toiles pour Dante, je l'ai fait pour le CAPC de Bordeaux. Donc, la dimension correspond au CAPC de Bordeaux. Mais après, je les ai exposées ailleurs, par exemple au Stedelijk Museum d'Amsterdam, je les ai présentées en frise. Selon le lieu, elles sont présentées autrement.
Ah oui, et donc là, elles sont très plastiques. C'est-à-dire qu'on peut les adapter, il y a un côté très protéiforme.
Exactement. Et là, par exemple, j'ai eu la maquette des Beaux-Arts, de ce grand espace des Beaux-Arts. On a fait une maquette, et voilà, et je m'amusais à composer rouler un peu ses toiles en fonction du lieu.
Alors il y a par exemple Ellipse, hein, Ellipse. Alors c'est une sorte de labyrinthe, hein, on peut dire ça comme ça. Le visiteur a la possibilité de voir l'œuvre de l'extérieur, de tourner autour ou de pénétrer à l'intérieur et de se perdre dans des galeries. Donc ça rejoint effectivement la dimension un peu ludique qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on peut aussi se demander s'il y a un début, une fin, un ordre ou un désordre.
Dans les grandes indiennes, dans les grandes toiles de 16 mètres de long, il y a vraiment des citations de la Divine Comédie, oui. Notamment le début, les tout premiers versets du premier chapitre dans la forêt. Mais là, on est donc dans une mythologie chrétienne, je dirais, oui. Un mythe chrétien. Et là, tout d'un coup, vous parlez de la tente qui s'appelle
Ellipse.
Ellipse. Et là, on est plutôt dans ce qu'on appelle plutôt du côté de l'Ancien Testament, oui. C'est-à-dire, même si ça ne l'évoque pas, c'est l'organisation du camp tel qu'il se promenait dans le désert, tel qu'il, quand le camp s'arrêtait et qu'il s'installait dans le désert selon l'orientation, telle tribu se trouvait à l'ouest, telle autre à l'est, etc. Et à l'intérieur, vous savez, il y a une citation qui est très belle en hébreu qui dit, enfin en français, ça se traduit pas très bien, mais il y a un peu l'idée, construisez-moi mon mishkan, construisez-moi mon temple, et je serai au milieu de vous. Mais dans français, on entend que le temple, comme ça, ce temple éphémère, sera au milieu du camp. Mais en fait, c'est construisez-moi un temple et je serai au milieu de vous,
à l'intérieur de vous.
Donc l'intérieur de cette tente évoque une espèce de labyrinthe avec des citations et des images qui évoquent cette espèce d'intériorité.
Et à cette œuvre, Ellipse, répondent les Saintes Ellipses que vous avez réalisées en 2003 pour la chapelle Saint-Louis de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors là, c'est absolument impressionnant. Et vraiment, quand on entre dans cette pièce, on est vraiment saisi d'étonnement. Décrivez-nous cette œuvre, c'est 8 toiles, je crois, c'est ça?
Oui,
c'est 12 mètres de haut.
Oui, 8 toiles, tout simplement parce que c'était une commande par rapport au festival d'automne. Et dans cette chapelle, il y a, l'idée, c'est que vous avez, comme dans toutes les chapelles de la Salpêtrière, vous avez une coupole. Et l'idée, c'était que par rapport au point zénital de cette coupole, il y a un effondrement, de la coupole pour aller vers le nadir, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Donc tout d'un coup, toute cette coupole devient une anamorphose pour se réduire à un point. Et comme dans toutes les coupoles, il y a généralement un texte, oui. mais ce texte devient une anamorphose et qui ne peut se lire. C'est tellement, ça fait quand même 15 mètres de hauteur, ça peut, tout ça est recueilli dans un jeu de petits miroirs et donc vous passez d'un regard du côté du ciel pour aller vers le nadir pour voir ce qui est écrit sur le ciel. Vous voyez une sorte d'aller-retour pour lire le texte et ça, là aussi sur le point du zeugma, vous voyez qu'on commence à mettre en scène ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le texte, l'écriture, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte qui est dans ce cas-là plutôt la Bible.
Mais alors, est-ce que le texte est aussi sur cette œuvre-ci, hein, spécifiquement Virgin Gaoust, une image, un dessin?
Il y a en effet et un texte et une image. Et là, j'ai volontairement voulu que cette image soit très profane. C'est autant on a la Divine Comédie de Dante, on a le campement dans les 40 ans dans le désert, l'organisation du temps qui appartient à l'Ancien Testament. Et là, tout d'un coup, dans ce jeu d'écriture et d'effondrement de la coupole, de la voûte céleste. Là, on est dans un monde profane, d'écriture et d'images profanes.
On va marquer une courte pause pour le flash, redescendre sur Terre, pour le coup, un peu Gérard Garous se plonger dans l'actualité du jour. Et puis, on va se retrouver dans un peu plus de 3 minutes pour découvrir, cette fois-ci, les œuvres que vous exposez à la galerie Templon et au musée de la Chasse et de la Nature dans le quartier du Marais à Paris. À tout de suite, et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet.
Toujours avec Gérard Garouste, à l'occasion de sa triple actualité artistique, Zogma, le grand œuvre drôlatique, jusqu'au 15 avril dans la cour vitrée des Beaux-Arts, Zogma à la Galerie Templon jusqu'au 12 mai, et Zogma, Diane et Actéon au Musée de la Chasse et de la Nature jusqu'au 1er juillet. Gérard Garouste, quand et comment avez-vous compris que peindre était une nécessité pour vous ?
Eh bien, en fait, je me suis jamais posé la question parce que j'avais pas le choix. Parce que dès mon enfance, vous savez, j'avais des problèmes psychologiques, c'est-à-dire j'étais assez troublé, je travaillais très très mal, même dans les petites classes, je travaillais très très mal. Et le dessin, c'était la seule manière d'exister par rapport à mes petits copains et par rapport à la maîtresse d'école. C'est-à-dire, pendant que les petits copains faisaient des progrès en dictée, en division et en soustraction, moi, j'accrochais pas. J'étais même habité par une voix, comme tu disais, mais tu ne peux pas entendre, tu n'entendras rien. C'était très très éprouvant. Et qu'est-ce qui restait, vous savez, c'est comme quelqu'un qui se noie, il agite ses mains pour ne pas couler. Eh bien moi, j'ai fait confiance très rapidement à mes mains, et mes mains, je vous dirai même aujourd'hui que mes mains m'ont sauvé la vie. À plusieurs stades de ma vie, les mains ont toujours été là pour me rassurer. Je rends souvent dans les tableaux hommage aux mains, parce que j'ai plus confiance dans mes mains que dans ma tête.
Alors, vous évoquiez vos problèmes psychologiques, vous en avez parlé dans un livre qui s'appelle La Tranquille. Moi, quand je suis allé à la galerie Templon, et quand je suis allé également aux Beaux-Arts avant-hier, j'ai entendu une visiteuse dire « Mais c'est complètement fou !» C'est un hommage pour vous ?
Oui, tel que elle a pu le dire, c'est un hommage, parce que l'idée, c'est que, vous savez, j'ai toujours pensé, j'ai eu une sorte de rêve un jour qui disait, dans la vie, il y a deux sortes d'individus, des classiques et des indiens. Et c'est vrai qu'on a tous un côté indien, c'est-à-dire fou, intuitif, déraisonnable, obscur. Mais aussi on a un côté classique. Et l'idéal, c'est d'être dans les deux, en étant un peu plus fou que classique, parce que si on est très classique, il vaut mieux être un homme politique. Mais si on est un peu plus indien, il vaut mieux être un artiste. Alors, il faut pas être que fou, parce qu'en effet là on sort plus de l'hôpital, ce qui m'est d'ailleurs déjà arrivé, mais sinon on s'ennuie aussi avec quelqu'un de trop classique.
Alors dans ce livre L'Intranquille, vous avez aussi raconté votre père, ce qui a spolié des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi raconté votre cheminement vers le judaïsme. Et cette exposition à la galerie Templon, elle a été construite autour du Talmud, donc l'un des textes fondamentaux du judaïsme. Comment est-ce que vous avez appréhender ce texte? Comment est-ce que vous êtes passé des mots à l'image?
Parce que c'est une longue histoire, mais le paradoxe, en effet, c'est que l'antisémitisme de mon père m'a amené à me poser des questions jusqu'au jour où, un peu assez adolescent, vous vous dites, ou vous prenez le costume de la famille et vous faites profil bas et vous restez avec les idées de la famille, ou alors vous commencez à vous poser des questions, vous dites, vous vivez un sentiment d'injustice et de rébellion comme par rapport à notre culture. Et là, comme par hasard, c'est pas tout à fait hasard, mais tout d'un coup, ma petite amie, elle est juive, et elle va m'entraîner vers une attitude de questionnement, justement. Et elle, qui pourtant n'est pas du tout pratiquante, religieuse, pas du tout du côté d'un mysticisme, je me retrouve quand même, comme par hasard, à suivre des conférences sur au début sur la Kabbale, mais parce que même Dante, vous savez, Dante était très très impressionné par la Kabbale.
Comment ? Un pont, là. Vous êtes décidé un pont. Là.
Exactement. Entre la Kabbale chrétienne de Dante et puis tout d'un coup la Kabbale juive. Alors là, tout d'un coup, la Kabbale juive, on a envie d'aller un peu plus loin, de comprendre d'où ça vient, et très rapidement, on s'aperçoit que pour être dans cet univers, il faut commencer par apprendre la langue. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'étudie l'hébreu, avec un maître merveilleux, et En croyant étudier une langue, en fait, vous rentrez dans une philosophie. Donc, c'est une vraie découverte. Ça excite beaucoup la curiosité. Et avec le temps, comme ça, vous passez du premier niveau de lecture à d'autres niveaux de lecture qui sont de plus en plus étranges et mystérieux, et jusqu'à... Vous savez, le Pentateuque, c'est un mythe. Vous savez bien que l'Arche de Noé, on le retrouve chez Sumer. Rien n'a été inventé. Les mythes se retrouvent, ce sont des recoupements d'autres mythes. Ce mythe du Pentateuque, ce qui devient fondamental, c'est son commentaire. Alors là, le commentaire n'appartient pas à Sumer, pas plus qu'aux Égyptiens.
Donc il appartient à tout le monde, il appartient donc à l'artiste, il appartient aussi au public.
Exactement. Et là, le commentaire du Talmud vous invite à voir le texte d'une autre manière, et en tous les cas d'une manière très différente de ma propre culture à l'origine qui était chrétienne.
Mais alors quelle est votre vision, pour reprendre le mot, quelle est votre vision à vous du Talmud, du Ragaus?
Eh bien, une prise de conscience que les images n'ont pas beaucoup d'importance, mais que les mots sont à prendre, j'ai envie de dire, au pied de la lettre. Vous savez, un des livres fondamentaux de la pensée juive, c'est le Sefer Yetzirah, il n'a même pas d'auteur, c'est un texte kabbaliste, sans auteur, et qui dit le monde a été créé, pour créer le monde a été créé à partir des 22 lettres de l'alphabet. Et ça veut dire tout simplement que le plus important de tout, c'est en effet les lettres. Et si vous prenez tout d'un coup un animal... Comme vous pouvez le voir dans les expositions, c'est pas l'animal qui compte, c'est les concordances par rapport au mot lui-même. Je vais vous donner juste un petit exemple que je prends toujours parce qu'il est très simple. C'est que une abeille, ça se dit Déborah, Déborah, cette racine de Tolède, Dalet Betresh, exactement la même racine pour Dibour, la parole, Midbar, le désert, Dever, la peste. Et donc, quand vous rencontrez ce mot abeille, ce sont aussi des ponts, ça.
Voilà, absolument, finalement, on passe d'un territoire à l'autre, et ça ouvre complètement votre imagination.
Et là, on n'est pas dans un dictionnaire qui donne la définition d'un mot, il faut s'imprégner de l'atmosphère, donc à la limite, pour comprendre le mot abeille, il faut lire tout le Pentateuque pour comprendre où ça veut en venir.
Alors, parmi les personnages que l'on croise à la Galerie Templon, il y a Pinocchio. Je voudrais que vous me disiez un petit mot sur... Alors
voilà,
Pinocchio.
Voilà un vrai segmar. Vous savez, ça fait des années maintenant que je travaille avec un talmudiste qui est devenu un ami, un talmudiste, donc un kabbaliste, parce que dans le Talmud il y a de la kabbale. Et même si moi je suis pas talmudiste ni kabbaliste, on peut avoir une oreille. Pinocchio. Eh bien, c'est un vrai zogma parce que tout d'un coup, à lire l'histoire de Pinocchio, c'est comme si il y avait une relation avec le non-sacrifice d'Itsrak, le non-sacrifice d'Isaac.
Oui.
Et c'est très très étrange parce que à un moment donné, cette petite marionnette doit être brisée par une hache, et le texte est très proche du sacrifice d'Abraham. Ça m'amusait dans un tableau de réunir ces deux choses justement zogmatiques qui n'ont rien à voir, et dans une mise en scène où il y a le bras comme ça de l'ange qui empêche le sacrifice d'Isaac, et c'est Pinocchio qui ne sacrifie pas Isaac. Vous voyez, il y a une confusion, mais il y a du lien.
Alors on peut penser à Collodi, et puis il y a aussi un autre auquel on est obligé de penser quand on visite cette exposition, celle du musée de la chasse aussi. D'ailleurs, un autre écrivain, c'est La Fontaine.
Bien sûr, La Fontaine. Alors La Fontaine, quand La Fontaine aborde les, ce sont des animaux. Je pense que ma prochaine exposition sera tournée vraiment autour des animaux.
Il y en a beaucoup. Il y en a énormément.
Mais justement, il y a des animaux qui sont dans un contexte talmudique, comme je viens de vous le dire. La grenouille, c'est pas du tout pour la représentation de la grenouille. Elle est là pour autre chose. Alors que chez La Fontaine, là, tout simplement, simplement les animaux représentent le genre humain, le caractère humain.
Oui.
Et donc là, on est plus proche de la mythologie grecque, c'est-à-dire un lion, c'est le roi, la biche, c'est la gazelle, etc. La biche, c'est elle court, elle est féminine, elle va. L'âne, il porte les fardeaux.
Oui, vous aimez beaucoup les ânes. Hein. Il y a des mules.
Alors,
plutôt, plus
mules,
exactement. Hein,
non, alors les mules dans le Talmud, il y a des mules avec avec des démons, comme ça on peut se demander cette idée étrange, parce que en effet les ânes sont aussi d'abord, mais je crois, vous savez, que pour il y a une chose amusante, en effet j'adore les ânes parce qu'ils ont une place très privilégiée dans la Bible. Il faut savoir que c'est le seul, vous savez, après le sacrifice, enfin, après le meurtre des premiers-nés dans les 10 plaies d'Égypte,
oui.
L'Éternel fait un pacte avec, enfin fait pas un pacte, mais il demande aux hommes de leur donner leur fils aîné, et le père doit racheter à Dieu symboliquement le fils aîné. Une pièce, même, c'est quelque chose qui est un rite. Bon. Eh bien, l'âne a ce privilège d'être le seul animal qu'on doit racheter à Dieu, pour vous dire que l'âne est un animal considéré. Et un petit détail en passant, c'est que moi, quand j'étais si mauvais élève, dans une petite classe, la maîtresse d'école avait pris un malin plaisir à faire un bonnet d'âne,
oui.
Et je me suis retrouvé à la récréation avec un bonnet d'âne et ma dictée de 0 accrochée dans le dos.
Voilà, et aujourd'hui, vous faites partie de l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, oui.
Le cœur des chasseurs de Karl Maria von Weber, interprété par l'Orchestre National du Bolchoï dans VMDN sur RFI. On va donc franchir un pont, encore une fois Gérard Garoust, avec les deux mules et le pont, hein, qui nous emmène d'ailleurs dans l'autre exposition, pas très très loin de la Galerie Templon, au Musée de la Chasse et de la Nature, cette fois-ci avec cette troisième exposition, Zogma, Diane et Actéon. Alors tout est parti d'une commande du musée pour vous, elle vous a commandé un tableau, et finalement vous avez décidé d'élargir un petit peu votre champ d'activité, puisqu'on se retrouve à visiter une exposition avec toute une série d'œuvres. Alors le mythe, on le connaît, je le résume très rapidement. Actéon, chasseur, a remporté de gros succès à la chasse, il est fier, il est heureux, et il tombe sur Diane, la déesse de la chasse, donc en train de prendre son bain. Il l'observe, il l'admire pour sa nudité, pour sa beauté, elle s'en rend compte, et elle va se venger du voyeur en le transformant en cerf, à tel point que les propres chiens de chasse d'Actéon vont le poursuivre et vont finir par le dévorer. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce mythe, pour vous, Gérard Gaus?
Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce mythe, sur l'amour, à la limite même la bestialité. Laissons des personnes comme Elisabeth de Fontenay parler de ce mythe. Elle en parle merveilleusement bien. Et puis on le connaît, ce mythe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un mythe, justement, un mythe, on peut l'interpréter comme on l'entend. Donc, on reprend les trois personnages, les trois thèmes. Il y a le chasseur, Actéon, les chiens et Diane. Pour moi, dans ma mise en scène, Diane, c'est une chasseresse. Le côté chasse, elle est au-delà du bien et du mal. Dans l'Olympe, dans les cieux, il n'y a pas de bien. Elle est la femme sublime, intouchable. Et dans mon histoire, elle se fout complètement qu'il y ait un voyeur, un mortel qui la regarde. Elle est au-dessus de ça, donc elle se venge même pas. Elle le laisse. Par contre, moi, j'aime les chiens. Et je n'aime pas les chasseurs, surtout oui. celui-là, oui. parce que dans le texte, c'est vraiment un viandard. C'est-à-dire oui. qu'il cerne son gibier dans des filets pour massacrer. Il fait un massacre. Donc c'est vraiment une chasse qui fait correspondre aujourd'hui, vous savez, à la chasse, à la côté industriel de la manière dont on tue les animaux. Donc là, j'ai voulu régler un compte à notre ami. Actéon, j'en fais un voyeur, mais tellement pervers. Alors ça, c'est entre plusieurs tableaux, oui. tellement pervers qu'il peut pas s'empêcher en matant cette déesse de se prendre un de ses chiens et de le sodomiser.
Voilà, absolument. Alors c'est étonnant parce que vous disiez tout à l'heure que vous vouliez surtout pas choquer le public.
oui, mais là, dans la mythologie grecque, vous savez, les histoires sont assez enlevées. Les dieux se transforment en animal. Et il faut voir même dans la peinture comment ça se passe entre les dieux, les humains, les mortels, etc.
Oui, donc ce serait pas, c'est pas incongru. C'est pas,
hein, non, oui, dans oui, la mythologie grecque.
Et il va être puni quand même, Actéon, pour ce geste. Alors, mais à quel point?
Les chiens, là, tout d'un coup, moi j'en fais des animaux sympathiques, parce que dans la version officielle, ce sont des chiens de chasse, donc ils tuent un cerf, alors que moi, j'en fais un animal qui se venge d'avoir été violé. Et donc, ils émasculent Actéon, qui lui-même est avec des cornes. Vous savez, à cette époque-là, on ne disait pas des bois. Maintenant, des bois, c'est très magnifique.
C'est très noble, oui.
Mais à l'époque, un cerf, il avait des bois, des cornes. Et moi, en effet, j'aime bien l'idée qu'il soit cornu et donc émasculé. Et donc, pour moi, je suis content avec ce côté, la morale de cette histoire.
Ouais, mais parfois, Actéon a des traits qui ressemblent un peu à ceux de Gérard Garousse, non?
Oui, parce
c'est une autocritique.
Et de même que Diane ressemble à
votre épouse.
Voilà, parce que encore une fois, Diane, c'est tout ça est très ambigu. Actéon, je voulais que ça soit une figure très 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 réaliste,
oui, très humaine, très proche de nous.
Très proche de nous. Je ne déteste personne au point de le peindre en Actéon. On dirait mais pourquoi il déteste à ce point-là Donc le seul portrait possible, c'était un autoportrait. Donc je me suis fait en Actéon, c'était peut-être épouvantable. Et Diane, parce que c'est tout ça est en plusieurs tableaux. Diane, tout d'un coup, a cette tête, mais qui devient une anamorphose. Sa tête devient une anamorphose, au point que dans un des tableaux, cette anamorphose de tête de Diane devient une érection du corps de Actéon. Donc vous voyez, tout ça se mélange étrangement.
Vous avez, alors ça se voit pas parce qu'on est à la radio, vous avez une chemise bleue aujourd'hui, Gérard Garousse. Et moi, j'ai toujours été frappé par votre bleu à vous. Il y aurait une sorte de bleu Garousse, comme ça, que l'on retrouve dans énormément de ces toiles, hein, au niveau du ciel, mais pas seulement. Comment est-ce que vous le fabriquez, ce bleu?
Écoutez, je crois que là aussi, c'est en ayant suivi l'enseignement de la peinture la plus classique qui soit, c'est que dans la peinture classique, vous avez toujours une ébauche, et selon les époques, les ébauches sont plus ou moins chaudes. Assez froides à l'époque romantique, par exemple, mais à l'époque de Poussin, les beaux gauche est très chaude. C'est un rouge de Pouzzole carrément. C'est vraiment très chaud. Et d'ailleurs, cette ébauche est tellement chaude que, avec le temps, la peinture à l'huile devient de plus en plus transparente. Et vous remarquerez que les poussins sont vraiment très chauds comme oui. ça. Et j'aime cette chaleur. Et donc, en faisant les mêmes dessous que poussins, c'est-à-dire en faisant pratiquement des brins rouges. C'est pas un rouge, mais c'est un brun rouge. Le bleu qui va venir par-dessus va donner cette profondeur. On voit plus le rouge, mais le bleu est chauffé par cette sous-couche.
Oui, vous parlez de poussins à l'instant. Quels sont les peintres justement classiques pour le coup qui ont beaucoup compté? Parce qu'on en parlerait plus peut-être de la peinture espagnole, non?
Oui, en tous les cas, un peintre pour moi qui est un grand technicien pour un élève des beaux-arts que j'étais, qui a regardé à la loupe, c'était Tintoret.
Ah, qui est à l'honneur en ce moment au musée du Luxembourg.
Voilà. Oui, parce que dans l'enlèvement du corps de Saint-Marc, vous avez toute l'histoire de la technique de la peinture. Si vous regardez bien ce tableau et que vous êtes peintre, vous savez faire un glacier, un empattement, un contre-jour, même des choses un peu abstraites. Et dans le tableau, l'enlèvement du corps de Saint-Marc, en plus, qui est un tableau figuratif, si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous ne comprenez rien à ce tableau. Alors ça, j'adore ça. C'est un tableau figuratif auquel on ne comprend rien. Donc, là encore, on est renvoyé à la question. Vous me demandez quel tableau j'aime. J'aime la peinture espagnole, parce que j'aime pas le côté trop religieux de la peinture latine. La peinture espagnole, je l'aime beaucoup, et l'influence de la peinture espagnole sur les peintres français comme Manet.
Merci beaucoup, Gérard Garoust, d'être passé nous voir. Zeugma, le grand œuvre drôlatique à voir jusqu'au 15 avril dans la cour vitrée des Beaux-Arts. Zeugma à la Galerie Templon jusqu'au 12 mai. Et puis Zeugma, Diane et Actéon, c'est au musée de la chasse et de la nature, toujours à Paris jusqu'au 1er juillet. Et à présent, on part au Sénégal.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Yeah. Sama xol fess na tax ka may poñ na la defal lo gisul ci ben gor sey ciono jeex na may ki lay sor waw gor duma bok ci gor yi lay dor.
Car plusieurs centres des cultures urbaines célèbrent cette année les 30 ans du hip-hop sénégalais. C'est le cas dans la banlieue nord de Dakar du centre G-Hip-Hop, G pour Gwedaway, un des berceaux du rap sénégalais qui accueille plusieurs concerts. L'association a été fondée il y a 8 ans par un rappeur nommé Sarenzo, de son vrai nom Malik Sarr, décédé il y a peu de temps, et Malal Tala, alias Fou Malade, membre du mouvement citoyen Yannamar. Reportage pour VMDN signé Constance Léon.
On est entouré de plusieurs éléments du hip-hop.
Le graffiti, le beatboxing,
le breakdance.
C'est ça le refrain, beau parleur. Je m'appelle Papa Ali Gueye, plus connu sous le sobriquet de Detective AG, ou bien Paco tout simplement, membre fondateur du groupe Pat Ghetto. Voilà, donc là on est au centre Gueye Hip-Hop, qui regroupe pour la grande partie des rappeurs, DJing, graffeurs et acteurs, n'est-ce pas, du mouvement hip-hop. Mais il y a des étudiants, voilà, il y a en minorité aussi des femmes. Ils peuvent demander la formation et en bénéficier gratuitement. Que ce soit en DJing, en graffiti, musique assistée par ordinateur, photographie.
Malal Tala, vous êtes aussi un des membres fondateurs du mouvement citoyen Y en a marre.
Je suis depuis 1977, je vis à Gueye.
Le rôle du hip-hop, pour Gueye Hip-Hop, il y a beaucoup de choses qui se font sur la sensibilisation par rapport à la tuberculose, c'est-à-dire comment le hip-hop peut être une locomotive, un levier de la citoyenneté, un levier d'émancipation citoyenne. Beaucoup de jeunes ont été réinsérés grâce au rap, parce que c'est un quartier très très difficile où beaucoup de jeunes ont une histoire avec la prison.
Donc là, on est donc dans la pépinière qui fait partie du J-Hip-Hop. On est en train de boire le thé, donc la taïa sous l'arbre. Autour de nous, il y a des gens qui travaillent dans la pépinière et il y a plein de plantations très vertes avec un mur couvert de graffiti.
On me sinon au J-Hip-Hop Babylon Fire, même dans la rue aussi, on me dit Babylon. Je suis un graffeur. Le J-Hip-Hop, je le connais les jours que j'étais dans la rue, quoi. On vend la drogue, on fait du deal. C'était c'était l'enfer, quoi. Mais grâce à Malal Talal et Sarenzo Malixa, ils sont venus dans la rue. Et nous, on commence à être dans la société, à être reconnu par la société.
Mon nom est le B, le L, le A, le C, le K, le B, le double O et le D. C'est-à-dire Black Blood, from Gedjaway, un rappeur conscient qui fait tout pour être la voix des sans-voix. Dans mes chansons, j'ai l'habitude de parler de la vie des banlieusards, de la vie... J'essaie de relater ma vie. J'ai connu du hip-hop quand j'étais rien du tout, dans mes débuts.
Parler, dénoncer, c'est bien, mais il faut quand même qu'on gagne notre vie avec ce qu'on fait. On est à 30 ans de hip-hop au Sénégal. 30 ans, c'est un patrimoine. Et si aujourd'hui le président de la République du Sénégal a mis un fonds de développement pour les cultures urbaines, c'est parce que le gouvernement est conscient de la force du hip-hop.
Reportage de Constance Léon pour VMDN et cette semaine du hip-hop se poursuit jusqu'à samedi prochain, 24 mars. Dans un instant, l'info avec du théâtre demain dans Vous m'en direz des nouvelles avec Xavier Gallet pour Guérisseur, une pièce de l'Irlandais Brian Friel. C'est actuellement au théâtre du Lucernaire et Vous m'en direz des nouvelles.